ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique.
Bonjour, vous écoutez votre émission de jazz préférée sur RCF comme à la radio. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur, l'avantage d'inviter Jean-Paul Halimi. Et c'est un grand plaisir de l'avoir avec nous. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Et pour commencer, je voudrais quand même dire à nos auditeurs que tu es multi-casquette, multifonction. Tu es en même temps à la direction du Conservatoire c'est de ça. Nice. Tu es enseignant dans de multiples endroits, mais au Conservatoire de Saint-Laurent également. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, tu es musicien, tu es un pianiste que l'on connaît bien dans toute la région et même au-delà de nos frontières varoises. Est-ce que tu peux nous dire comment as-tu commencé à jouer du piano? Comment es-tu devenu musicienne de jazz?
Alors, c'est très compliqué, mais il faut savoir que j'ai commencé la musique avec mon père et sa famille, qui jouaient de la musique arabo-andalou et qui jouaient uniquement des instruments à cordes et du dolboka, donc aussi percussion. Et dans ma famille, le piano était une hérésie. Ça n'existait pas, ce n'était pas un instrument. Donc, j'ai démarré un peu tard, c'est-à-dire vers 13-14 ans. J'ai commencé à travailler le piano et j'ai eu la chance de rencontrer un grand professeur, s'appelait Madeleine David, qui était professeur à l'École normale de Paris et qui était elle-même une élève de Klaus Mann et de Jules Massenet, parce qu'elle était chanteuse. Et avec cette femme-là, qui avait 80 et quelques années quand j'avais 15, hein, elle était du 19e siècle, avec lequel je ne m'adressais jamais la parole, je ne peux pas donner toutes les anecdotes, que j'ai appris le piano. C'est simple, quand j'ai commencé le premier cours, elle m'a dit « Mon petit, vous savez rien ». Voilà. J'étais pas mauvais à l'époque, c'est-à-dire qu'à 15 ans. Et donc, j'ai fait 2-3 heures de technique par jour pendant pas mal d'années. Ce qui m'a valu d'adorer, évidemment, la technique du piano de Chopin et de Franz Liszt. Alors, ça, c'est la période classique. Alors, pourquoi j'ai adoré Liszt et Chopin? Parce que Liszt était un improvisateur, était l'un des plus grands improvisateurs de tous les temps. Faisait des concerts d'improvisation. Et Frédéric Chopin également. Ça a été peut-être même le plus grand improvisateur depuis qu'il existe des improvisateurs, Chopin, mais avec cette capacité de réécrire le meilleur de son improvisation la nuit. Donc, c'était un pianiste extraordinaire. Donc, j'ai été rapidement bercé dans l'improvisation grâce à ces maîtres classiques et qui m'ont vraiment beaucoup inspiré.
Alors là, est-ce que tu peux nous proposer un morceau de musique pour évoquer cette histoire?
Alors, je propose un pianiste qui vient souvent dans la région, qui a été le plus grand pianiste français à travers le monde, qui est toujours le plus grand à mon avis, c'est François-René Duchâble, qui joue une paraphrase de Liszt, de Rossini, écrit par Liszt. Et vous allez voir, c'est un monument musical de virtuosité, de... Voilà. Paraphrase.
Thank you.
Alors, Jean-Paul Halimi, on vient d'écouter une musique qui est classique et une musique d'improvisation. Et pourtant, dans l'esprit des auditeurs, souvent, le mot improvisation va avec le mot jazz.
Non, l'improvisation n'est pas propre au jazz. L'improvisation, il fait partie de différents styles de musique et de musique occidentale. Les maîtres baroques improvisaient tout le temps, ça faisait partie de leur formation musicale. Bon, la musique extra-européenne que j'ai pratiquée étant plus jeune, l'improvisation est tout le temps là. Il y a plein d'autres musiques où on improvise. Le jazz, effectivement, l'improvisation est dans le jazz, mais il n'y a pas que dans le jazz. Et là, je voudrais revenir à un morceau suivant qui va passer, parce que justement, vous allez écouter un morceau que j'ai réécrit, on va dire, qui s'appelle Rondo à la truc. C'est sur la marche turque de Mozart. Parce que ce morceau, la marche turque, ça m'interpellait. Parce que de penser que la marche turque de Mozart, qui est un morceau qu'on apprend au bout de 4-5 ans de piano, c'était le morceau le plus difficile de l'époque, c'est-à-dire le morceau le plus compliqué lorsque Mozart l'a créé. Il y avait peu de pianistes, enfin clavecinistes, il y avait un peu de pianoforte, mais pas beaucoup, qui pouvaient le jouer. Alors ça m'a toujours dit, comment ça se fait un morceau si facile? C'était si difficile à l'époque. C'était comme Liszt, à l'époque de Liszt, il n'y avait que deux pianistes qui jouaient Liszt dans toute la planète. Vous imaginez aujourd'hui, c'est même pas la peine de... Comme quoi, ça s'est extrêmement démocratisé. Donc, j'ai fait un arrangement sur Rondo à la truc avec la marche turque de Mozart, où je fais un petit peu j'improvise un peu à la Jacques Loussier, parce que c'est un maître que j'adore. J'aurais dû d'ailleurs amener un morceau de lui, parce que j'aime beaucoup ce créateur qui a révolutionné l'art de jouer Bach façon jazz. Donc, ça s'appelle Rondo à la truc.
Et en plus, il a de l'humour. Vous écoutez RCF comme à la radio et nous sommes aujourd'hui avec Jean-Paul Halimi qui est multicasquette, multifonction, à la fois à la direction du Conservatoire de Nice. Il est musicien, nous venons de l'entendre dans cette improvisation autour de Mozart, mais il est également enseignant. Donc, Jean-Paul Halimi, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment on peut enseigner la musique et comment on peut enseigner le jazz ou l'improvisation? Ça, c'est dans les oreilles, ça ne s'apprend pas, ça.
Alors, enseigner l'improvisation, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est effectivement dans les oreilles, c'est-à-dire qu'on improvise sans vraiment savoir, sans vraiment élément savant. On improvise par l'oralité, par ce qui peut se passer autour de nous, un arbre qui, le vent dans un arbre, et sans savoir jouer ni du piano, ni de la clarinette, ni de la guitare, ni rien d'autre, on peut improviser avec son instrument, un peu comme on le fait quand on fait du sound painting, on improvise, on fait du son en improvisant. Ça, c'est un type d'improvisation. Puis il y a un deuxième type d'improvisation, un peu plus, on peut dire, un peu plus savant. Moi, j'appellerais ça avec des éléments d'analyse musicale. C'est un peu ça que j'enseigne. Bon, j'enseigne plus à l'étranger, d'ailleurs, qu'en France. Ce point de vue-là, je ne sais pas pourquoi, ici. Bon, ben, c'est comme ça. Donc, je vais souvent faire des masterclass d'improvisation. Je fais de l'improvisation modale, bien sûr, en m'aidant de l'analyse des partitions. Par exemple, vous avez écouté Mozart, et là, j'analyse la partition de Mozart. Et là, j'en déduis des éléments qui vont servir à improviser. Et ça, c'est quand même, ça, c'est intéressant pour ceux qui ont déjà une technique de piano, puisque j'enseigne surtout l'improvisation au piano classique et qui sont incapables de mettre deux notes à côté parce qu'ils sont trop stressés par l'exactitude, en tout cas, de ce qu'ils lisent sur leur partition. Donc, il faut faire de l'analyse musicale, chose qu'on ne fait pas forcément, et puis en déduire après des éléments qui vont permettre d'improviser. C'est très facile. Bon, dans Mozart, dans Chopin, certaines musiques de Chopin, c'est très facile. Dans les musiques plus modernes, sans parler du jazz par la suite. Mais si on décrypte un petit peu certaines partitions, bon, je pensais, tiens, j'avais une valse de Chopin, par exemple, en fa mineur. Vous avez des accords, vous avez des gammes, vous avez des tas de choses dans la partition elle-même. À ce moment-là, il faut les décrypter et puis essayer d'improviser avec vos éléments que vous avez intégrés. Voilà. En plus, il y a une autre façon, une façon un peu moins savante d'apprendre le piano, notamment, parce que le piano, ça va très bien pour apprendre à improviser, ça c'est clair, c'est l'instrument roi. C'est également d'apprendre les modes et pas les gammes. Les gammes par les modes, pas les gammes modales, majeures, mineures, qu'on n'apprend pas simplement ces gammes-là. D'ailleurs, les élèves sont quand même assez surpris parce que je leur dis, vous avez fait des gammes en classique, combien? 2 heures par jour? Ah ben là, vous allez en faire 4 heures par jour. Parce que dans le jazz et musique improvisée un peu plus savante, on va dire, là, vous êtes obligé de multiplier votre nombre de gammes par un certain nombre, qui est quand même important parce que chaque mode, c'est compliqué. Et en plus, pour le piano, c'est encore plus compliqué que pour beaucoup d'instruments parce que chaque tonalité, chaque modalité a des positionnements digitaux très différents et qui sont complexes, qui peuvent être complexes. Donc, il faut travailler ça, de les avoir dans les doigts. Et puis surtout, après, une fois qu'on les a sous les doigts, il faut les avoir dans les oreilles. C'est surtout dans les oreilles même qu'il faut les avoir. C'est en fonction de ce qu'on écoute, qu'on se met dans les oreilles et qu'on a envie de faire écouter, qu'on peut commencer à improviser.
Mais alors là, je te propose maintenant de nous mettre dans les oreilles un autre morceau que tu nous avais préparé et oui, qui s'appelle Tequila.
Alors, c'est un des morceaux de jazz que je préfère dans toute l'histoire du jazz. C'est un guitariste que j'adore. Il a été créé en 1966. C'est Tequila par Wes Montgomery. Thank you.
extraordinaire West Montgomery que nous écoutons grâce à Jean-Paul Halimi.
Quel merveilleux musicien.
Extraordinaire musicien. Et Jean-Paul, donc tu joues, tu enseignes à l'étranger, mais tu vis et tu enseignes aussi sur la Côte d'Azur. Alors, que penses-tu du jazz aujourd'hui sur la Côte d'Azur? Pas en 48, en 2013, en 2014.
Ben moi, je dis globalement, peut mieux faire. Globalement, peut mieux faire parce que s'il y a bien une musique qui est significative de l'histoire de la Côte d'Azur, de l'histoire de la Riviera française, depuis presque les années 20, hein, puisque Stéphane Grappelli, la première fois qu'il a joué du violon, n'oublions pas que c'était à Nice, hein, puisqu'il était pianiste, Grappelli. Et donc, c'est quand même. La Côte d'Azur française a une histoire du jazz et du music-hall qui est quand même assez significative et tout à fait exceptionnelle. Et je crois qu'on pourrait faire beaucoup mieux. On pourrait faire beaucoup mieux sur toute la Côte d'Azur. Bon, j'avais même initié, suis en train d'initier un projet sur toute la Riviera, l'Institut du jazz et du blues et du music-hall sur la Côte d'Azur. J'espère que ce projet un jour naîtra. Parce qu'on peut effectivement avoir, pour une musique qui a été telle et qui continue à vivre comme ça sur la Côte d'Azur, on pourrait aller beaucoup plus loin dans la créativité, dans la diffusion et dans la conservation du patrimoine.
Alors, conservation du patrimoine, je sais que tu as travaillé sur Cocteau pour le cinquantenaire de sa mort. Et tu nous as proposé un morceau qui fait partie de ce spectacle Cocteau pour poursuivre.
Voilà, donc j'ai un spectacle Cocteau avec un comédien mettant en scène qui s'appelle Jean-Louis Chal. Là, on repart à l'étranger. On va partir en Israël, on va repartir en Turquie. On va toujours plus à l'étranger qu'ici, malheureusement. Nul n'est prophète en son pays. C'est toujours la même chose, mais ce n'est pas grave, on commence à s'y faire. Et donc, Jean Cocteau, multifonction aussi, il était batteur de jazz. Et pas un petit peu, mais enfin, il a été un peu musicien, il a été créateur, en tout cas, c'était un très grand artiste. Et on a bâti un spectacle sur son œuvre, sur sa vie, avec Jean-Louis, où d'ailleurs on va écouter un morceau, mais c'est du live qu'on a enregistré il n'y a pas très longtemps.
Allez, on se régale.
D'orgue, de cierge, de gargouille, de burlesque, de ménestrel, de mysticisme et de mystère, et secoué par le rythme noir. Le Lindy Hop, qui règne depuis 5 ans, est une cabote nègre. Se danse sa voix, le dancing noir de Holler. Une longue salle basse entourée d'une balustrade. Au milieu, la piste et l'orchestre. Autour, un promenoir, des loges et des tables où les spectateurs et les danseurs consomment des boissons naïves. Soudain, l'orchestre ressuscite les morts. Les morts qui dansent s'éveillent de l'hypnose et le Lindy Hop les secoue. Sur quelle herbe ont-ils marché? Sur la marijuana, l'herbe qui se fume et qui grise.
Voilà un spectacle autour de Cocteau monté par Jean-Paul Halimi et un comédien. Mais tout à l'heure, tu parlais de projets. Il semblerait que tu aies des projets importants pour la jazz et la Côte d'Azur.
Et moi, j'aimerais bien, effectivement, créer un institut du jazz et du blues sur la Côte d'Azur, mais qui concerne toute la Riviera, pas qu'une simple commune. Hein, il faut que ce projet soit d'une envergure qui correspond justement à la place du jazz dans notre région. Tu parlais avec la place du jazz dans la Côte d'Azur. Ben, l'association So What en est un exemple. Mais vraiment, c'est vraiment, pour moi, c'est la première musique de la Côte d'Azur. La Côte d'Azur au XXe siècle et que ça continue encore aujourd'hui. Donc il y a un patrimoine, il y a un présent et puis j'espère encore un avenir. Il y a aucun doute.
Pour terminer sur la Côte d'Azur sur un des musiciens qui est venu souvent jouer dans les différents festivals, tu nous as proposé Oscar Peterson dans New Look, c'est
ben
ça?
Oui, Oscar Peterson, ça a été le dernier des grands dinosaures du piano, du grand piano jazz. On va dire, il y en a eu d'autres, évidemment. Il y en a encore d'autres, Brad Meldo, par exemple, aujourd'hui. Mais Oscar Peterson a marqué vraiment l'histoire du jazz.
Écoute, merci Jean-Paul Halimi. Nous nous retrouverons lundi prochain pour de nouvelles aventures dans votre émission de jazz comme à la radio. Et nous terminons en écoutant Oscar Peterson, New Look.